On me conduit à Sarlat, où je reste jusqu'au jour de mon procès. Il a lieu le 29 juillet 1830. Il y a beaucoup de monde au tribunal. Nansac et sa famille témoignent contre moi. Mais d'autres personnes, comme les amis du curé Bonal, parlent en ma faveur. J'écoute avec peu d'attention ce que dit le procureur. Pourtant, il demande ma mort. Il dit que j'ai le crime dans le sang. Il parle de mon père et de la mort de Laborie. Moi, je pense à mon père assis sur ce même banc du tribunal et mourant au bagne. Je pense à ma mère mourant dans une horrible maison, et je pense à ma chère Lina qui dort à jamais dans le lit de la rivière, et maintenant que je les ai tous vengés, je peux mourir. Je n'ai pas peur.
Maître Fongras, vous avez la parole, dit le président.
Alors mon avocat se lève et se met à parler de sa voix grave. Il parle de ma famille, des dures conditions de vie de mes parents. Il parle des humiliations subies à cause des Nansac. Il en vient à moi et à mon enfance et raconte tous mes malheurs causés par la méchanceté du comte. Et à mesure qu'il parle, je vois les visages des jurés changer. Ils sont plus doux. Et quand mon avocat parle des 4 jours où j'ai été enfermé dans le château sans nourriture, sans eau, il y a dans la salle un murmure de colère qui commence à monter. Mon avocat se demande comment un tel crime n'a pas été puni, et il termine de parler avec ces mots.
Les gens, comme ce brave homme que vous avez devant vous, ont beaucoup trop souffert pour être jugés coupables de ce qu'ils ont fait contre ceux qui les tyrannisaient depuis des générations. Comme la justice n'est jamais en leur faveur, ils la font eux-mêmes, et ils en ont le droit. Alors, messieurs les jurés, je vous le demande, soyez justes. Acquittez cet homme, et justice sera enfin faite.
Puis, Maître Fongras se rassoit au milieu des applaudissements, et je suis acquitté. Pour la première fois de ma vie, je sens que quelque chose vient de changer, que la vie va commencer à être un peu plus facile pour nous, pauvres gens. Je retourne vivre chez Jean. Je suis heureux de me trouver libre, mais mon bonheur n'est pas complet, car je ne cesse de penser à ma chère Lina. Le temps passe. Je trouve facilement du travail, car depuis l'incendie du château de Lerme, les paysans m'apprécient beaucoup. Maintenant, ils sont tranquilles, car le comte et sa famille ont quitté définitivement la région. Ils m'invitent souvent chez eux à dîner ou à prendre un verre. Je me sens entouré d'amis, mais ma tristesse continue. Je ne peux oublier Lina. Un dimanche où je pense plus que jamais à elle, je décide d'aller voir Bertille pour parler avec elle de notre amie. Je la trouve près de chez elle. « Comment ça va ?» lui dis-je. « Hélas, mon pauvre Jacou, j'ai eu beaucoup de malheurs depuis que je t'ai vu. Lesquels, ma Bertille ? Ma mère est très malade, et elle ne peut plus bouger de son lit. Alors je n'ai plus de travail, car je dois la soigner. Et mon pauvre Armand, mon fiancé qui était soldat, est mort en Afrique. Pauvre Bertille, je te plains beaucoup. » Alors nous parlons pendant longtemps de nos amis disparus et je me sens mieux. En partant, je lui dis que je viendrai la voir le dimanche suivant et je lui donne un peu d'argent car je vois qu'elle et sa mère en ont bien besoin. Pendant toute la semaine, je travaille avec courage. J'ai décidé d'aider Bertille autant que je le peux. Le dimanche suivant, je vais à nouveau la voir et ainsi de suite pendant 3 mois. Un jour, en la regardant, une idée me traverse l'esprit. J'aime Bertille comme une sœur. Je sais que je ne peux pas l'aimer comme j'aimais Lina. Mais nous avons tous les deux beaucoup souffert, alors pourquoi ne pas nous unir et continuer la route ensemble? Je ne lui parle de rien, mais cette idée me trotte dans la tête chaque fois que je la vois. Sa mère meurt. J'aide de Bertille pour tout. L'hiver vient, puis à nouveau le beau temps. Je continue à voir Bertille, je suis de plus en plus heureux d'être avec elle. Je sens que je commence à l'aimer d'une autre façon. Sa mère est morte depuis plusieurs mois, alors je me décide à lui parler. Bertille, nous devrions nous marier et vivre le restant de nos jours l'un près de l'autre.
« Oh, Jacques, me répond-elle, pourquoi unir nos misères ?»«
Parce qu'il est plus facile de les supporter à deux en nous aimant beaucoup. »«
Si tu le veux, dit-elle, je le veux aussi. »
Sur ce, elle me prend par le bras et elle se serre contre moi. Nous nous marions après Noël. Je suis heureux. Enfin, je ne suis plus seul.